J'espère que vous allez bien. Parce que le Seigneur attend quelque chose de vous. Bientôt, c'est les fêtes de Noël. On va se faire des cadeaux. Et le Seigneur me dit, et toi, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Qu'est-ce que tu vas lui offrir, Alain? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, il va vouloir autre chose. Ah ah. Mais ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Hein. Ce soir, le Seigneur demande à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire? C'est l'anniversaire de Jésus bientôt. Façon de parler, d'accord, on ne va pas chipoter. Mais ce n'est pas encore une blague, ce que je vous dis, c'est sérieux. Qu'est-ce que nous allons offrir à notre Seigneur comme cadeau? Et lui, en échange, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Eh bien, ça, c'est pour mercredi soir. Sans perdre de temps, je vais vous donner le titre du message qui fait que sommes-nous un instrument prophétique pour un rendez-vous prophétique? Un instrument prophétique pour un rendez-vous prophétique. C'est ça. Le titre pour ce soir, avec tout ce que ça va entraîner comme bonne chose. Et on va lire déjà un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qui est dit, magnifique, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime. Or, ça, c'est pour mercredi. C'est un avant-goût. Parce qu'en fait, déjà, lui, il va nous proposer quelque chose de bon. Il dit, j'ai préparé pour ceux qui m'aiment des choses merveilleuses, que vos yeux n'ont jamais vues, vos oreilles n'ont jamais entendues. Et pourtant, on pourrait dire qu'avec tous les témoignages que l'on peut entendre de droite et de gauche, il semblerait qu'il y a quand même des choses merveilleuses qui se passent sur la terre. Et Dieu dit, mais c'est encore rien par rapport à ce que je prépare pour vous. Et moi, je veux croire que cette année qui arrive, puisse être une année de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il est temps que l'on se réveille, frères et sœurs, de nos siestes spirituelles. Et de nous rendre au rendez-vous de Dieu pour servir le corps de Christ. En fait, le rendez-vous que Dieu nous donne, ce rendez-vous prophétique, il est à la fois un cadeau pour nous-mêmes et un cadeau pour le corps que l'on représente. En fait, tout le monde va s'y retrouver. Tout le monde va s'y retrouver. Et donc, on va lire le passage qui nous correspond ce soir et qui va nous mettre l'eau à la bouche. Pour servir notre Seigneur, tu dois d'abord l'aimer. En fait, c'est un fondement. C'est quelque chose que l'on oublie. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir si tu ne sais pas aimer. D'ailleurs, si tu n'aimes pas ton frère, tu fais Dieu menteur. Si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur et vice-versa. Donc, nous allons voir que pour rentrer dans un service de gloire, un service puissant, eh bien, il faut apprendre d'abord à aimer et à s'aimer. Jean 5, verset, Jean 6, verset 5 à 13. Alors ça, tout le monde connaît ce passage, mais on va le creuser. Il est dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une foule, une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Vous me suivez quand même si vous ne voyez pas. Écoutez bien, c'est important parce que chaque phrase a un détail particulier dans ce passage. Il serait bon éventuellement qu'il puisse être affiché, puisque je vois que vous n'avez pas vos Bibles. Donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Si vous les avez sur votre téléphone, ouvrez-les, car ce passage est important. Et si vous n'écoutez pas ou vous ne mémorisez pas ce que je vais dire, vous allez passer à travers quelque chose d'important. Donc c'est dommage, réellement. Donc je vous laisse le temps éventuellement, si vous avez sur votre téléphone les bips, prenez-les s'il vous plaît, parce que sinon vous allez passer à travers quelque chose. Et vous me dites quand vous êtes prêt. Répète, Jean chapitre 6, versets 5 à 13. Et je vous demande d'avoir les oreilles, comme l'a dit Antoine, ouvrez vos oreilles pour ce qui va être dit, non pas par moi, mais par la parole. Alors je répète, on relit. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est écrit, c'est bon. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il ordonna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Une petite précision, on le trouve dans d'autres évangiles, pour avoir une descriptive bien spéciale du lieu. Dans Marc, on dit que le lieu se passe dans la situation se passe dans un endroit désertique et l'heure est tardive. C'est un lieu désertique et l'heure est tardive. C'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'en fait, auprès d'eux, il n'y a pas de ville ou de village, il n'y a pas de carrefour ou de champ, et il n'y a pas de moyen de transport facile, c'est désertique. Donc, et l'heure est tardive, en fait, comme tout bon citoyen de l'époque, il fallait les renvoyer à la maison. En fait, c'était la pensée des disciples qu'on retrouve dans d'autres évangiles, qui disent au Seigneur, « Bon Seigneur, c'est bien gentil, ils sont là depuis toute la journée, mais il est temps de les renvoyer à la maison. » Ça, c'est la réaction de chacun d'entre nous qui, on perd l'habitude de comprendre les choses célestes et on les traduit toujours, on les ramène toujours au terrestre. On a cette fâcheuse habitude, nous chrétiens, de toujours analyser avec l'intelligence ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous dit, ce que l'on entend. Et comme on a ce manque de discipline d'essayer de comprendre dans le spirituel ce que Dieu nous dit, eh bien, rapidement, on essaye de l'analyser charnellement. Et c'est normal que les disciples disent à Jésus, « Mais Seigneur, tu vois, c'est l'heure, c'est désert, il n'y a rien à manger, allez, renvoie-les chez eux. » Mais que dit Jésus? Lui, il a une autre conception. Et dans ce passage, il y a deux personnes qui vont être mises en évidence. Deux personnes qui, dans leur vie de tous les jours, ont une influence différente dans la vie. Vous verrez que pour l'un, c'est naturel que l'on le voit agir, et pour l'autre, il sort de nulle part. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont l'habitude d'être entendus, d'être vus, et puis des gens qui travaillent dans l'ombre ou qui n'osent pas, qui sont cachés. Vous savez, un peu comme avant que Saül devienne roi, quand Samuel, de la part de Dieu, avait reçu l'ordre de le oindre roi, il est allé donc dans la ville où se trouvait Saül et il cherche de partout celui qui doit le oindre. Or, il demande « Où est Saül ? Où est Saül ?» Et personne ne trouve Saül. Vous savez qui a mis en lumière là où était caché Saül ? C'est Dieu. Il a dit « Samuel, le Saül que je veux que tu oignes d'huile, il est caché là-bas au fond, derrière les bagages. » Si bien que chacun d'entre nous, on peut aussi bien se cacher là où on veut, on peut courir où on veut, au fin fond du désert. Dieu, quand il t'appelle, il te mettra en évidence et tu seras obligé de venir jusqu'à lui. Sinon, ça s'appelle une désobéissance. Dieu te connaît et il ira te chercher là où tu es caché, dans ton sépulcre, dans ta grotte, où tu veux, dans la cabane que tu as fait en Amazonie, il ira te chercher. Il ira envoyer quelqu'un. Et même si personne ne te trouve, il dira, il est derrière. C'est ce qui se passe. Et vous allez voir que ces deux personnes qui vont être mises en évidence, on peut s'y retrouver facilement. Donc, Jésus ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, tiens, Jésus pose une question. Il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? La première personne qu'on va s'intéresser, c'est Philippe. Philippe, c'est un disciple, un apôtre. Alors bien sûr, ce n'est pas Jean, Pierre, Jacques, ce n'est pas André, ils ne sont pas en évidence sans arrêt, mais dans la parole de Dieu, il fait partie de ceux qui ont chassé les démons, guéri les malades, libéré les captifs. Il est quand même un apôtre. Et comme pour Dieu, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, il est sur la même longueur d'onde que les autres. Philippe a la même notoriété que les 12 autres. Il suit Jésus chaque jour. Donc il est connu. Et c'est pour cela que... Mais il n'a pas cette notoriété, on va dire, comme l'avaient Jean et Pierre. Donc Dieu ce soir ne s'intéresse pas éventuellement si on pourrait comparer à des responsables, mais il va s'intéresser à des gens. Vous savez, il y a les ouvriers, les cadres supérieurs et le milieu dans la vie. Ben, il va s'intéresser à ceux qui, non pas qui ont beaucoup, ni qui ont peu, mais au milieu. Donc en fait, tout le monde est concerné, parce que vous allez voir que la deuxième personne, c'est râle et pâquerette. Donc il s'intéresse à Philippe, et il dit à Philippe, pour l'éprouver, dis-moi Philippe, comment on pourrait nourrir toutes ces personnes ? Une parenthèse, il est dit qu'il y avait 5000 hommes. Dans une autre, dans l'évangile de Matthieu, je crois qu'il est précisé, sans compter les femmes et les enfants. Donc si, sans aller plus loin, si au moins l'homme venait avec au moins une femme, ou si la femme avait au moins un enfant, on pourrait éventuellement penser qu'ils étaient 15 000. 15 000, éventuellement, hein, voire plus. Allez, 10 000. Imaginez la situation, parce qu'il faut la voir spirituellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut qu'on arrête de voir les choses terrestres. Mais si on s'arrête quand même au terrestre, il met par paquet de 50. Imaginez l'étendue d'herbe qu'il faut pour ranger 15 000 personnes. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de sono. Comment Jésus pouvait s'exprimer pour que la personne qui était au fond, tout au fond, parce que regardez une foule, ce que ça peut représenter. Celui qui est tout au fond, comment il faisait pour entendre la voix de son Dieu, de Jésus ? Comment ? Parce que Jésus n'hurlait pas. Sauf que la voix de Dieu, comme l'a exprimé Antoine tout à l'heure, elle se fait entendre malgré les murmures, malgré le brouhaha, malgré toutes les circonstances. La voix de Christ, elle traverse, elle pénètre les situations et elle vient toucher les cœurs. Que tu sois tout au bout, caché comme un futur Saül, Dieu, quand il parle, la voix se fait entendre et il n'a pas besoin de micro. Imaginez un peu le monde qu'il pouvait y avoir. Et un peu d'ironie, il a le droit, Jésus. Allez, Philippe, dis-moi, comment on pourrait nourrir ces 15 000 personnes ? Il y a une réponse de Philippe, assez anecdotique. Il dit, Seigneur, j'ai 2 années de salaire en argent. Ce 200 deniers représentait 2 années de salaire. J'ai 2 années de salaire, mais ça ne suffit pas pour nourrir toutes ces personnes. Ils en auraient un peu. En gros, Philippe, il commence à négocier avec Jésus en disant, ouais, j'ai 2 années de salaire dans mes poches, mais franchement, ça ne sert à rien de les dépenser, puisque c'est saupoudré, vaut mieux que je les garde. Là, je suis ironique, hein, là. Hein. Combien de fois on négocie avec le Seigneur en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 2 ans de salaire ? Ça représenterait aujourd'hui, si on était un smicard, 24 000 euros. Qu'est-ce que tu veux faire avec 24 000 euros pour nourrir toutes ces personnes? Mais si, Seigneur, il te demande quelque chose, c'est pour éprouver ta foi. En fait, Jésus est en train d'éprouver la foi d'un de ses apôtres, d'un de ses disciples. Il n'éprouve pas la foi du peuple, il éprouve la foi de Philippe. La foi ne vient pas de ton intelligence, mais de ton obéissance. La foi ne vient pas de ta compréhension, de ta connaissance. La foi, elle vient de ton obéissance. C'est très simple. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Peu importe ton analyse, 24 000 euros, mais qu'est-ce qu'on va faire pour 15 000 personnes? Ça ne sert à rien. Mieux vaut que je les garde pour une situation un peu plus importante. Voilà un peu la discussion de Philippe. Il essaye de discuter. Il dit, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec cet argent? La foi ne vient pas de ton intelligence, mais de ton obéissance. C'est l'épreuve de la foi, car un titre ou une position n'augmentera jamais ta foi. Vous pouvez avoir un titre, une situation spirituelle, vous pouvez avoir un ministère, vous pouvez avoir des dons, tout. Ce n'est pas ça qui fera que tu aies la foi. La foi, elle est suscitée par notre Seigneur à travers notre confiance. Et si le Seigneur avait dit comme ça, « Philippe, je sais que tu as 2 années de salaire, donne-les-moi. » Philippe n'aurait pas eu le choix, même si ça l'aurait enquiquiné, il lui aurait dit, « Tiens, Seigneur. » Mais en fait, c'était pour l'éprouver, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais ce qu'il allait faire, il ne le ferait pas avec Philippe. Il ne le ferait pas avec Philippe. Il a dit, « Je vais choisir les choses viles, les choses folles du monde. Je vais choisir quelqu'un que l'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'a rien à faire, quelqu'un qui n'ouvre jamais sa bouche, quelqu'un qui n'a aucune instruction, qu'on ne miserait jamais, quelqu'un qui ne dit rien. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Ici, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant d'argent ? » Alors au départ, on avait 2 années de salaire, 24 000 euros. Maintenant, on passe à 5 pains d'orge et 2 poissons. Allez, 3 euros le pain, 3 fois 15, 3 fois 5, 15. 3 poissons à 1 kilo à 15 euros le kilo. Allez, 30 euros. Alors avant, on avait 24 000 euros. Maintenant, on passe à 30 euros pour nourrir 15 000 personnes. C'est là où Dieu nous surprend. C'est là le surprenant de Dieu. C'est qu'en fait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il s'en moque, il ne veut pas de notre argent, le Seigneur. Je ne parle pas des dîmes et offrandes, je dis dans l'état actuel, l'argent appartient à Dieu. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu tel qu'il est par rapport à ce qu'il te demande et ce que tu as? Parce que tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Donc en fait, il te dit, aujourd'hui, je veux en quelque part que tu me donnes ce que je t'ai donné. Mais je te le rendrai, t'inquiète pas. Et il appelle, qui c'est qui a ces 5 pains? Et de poissons. Et entre parenthèses, pour moi, les pains représentent la vie. Et les poissons représentent l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. Le pain, c'est la vie. Quand vous avez la vie et l'abondance, c'est ce que Dieu nous donne. Il dit, moi, je vous ai donné une vie en abondance. Le pain, c'est Christ. Donc, si on comprend déjà que il avait préparé la situation... Jamais Jésus ne sera pris au dépourvu dans nos vies. Nous ne pourrons jamais le prendre nous-mêmes au dépourvu. C'est ce que pensait faire Philippe en disant, « Mais Seigneur, je t'en supplie, il est encore, c'est pas trop tard, les métros ne sont pas fermés, il y a encore quelques bus, vas-y, renvoie-les, ils ont le temps de prendre et de rentrer chez eux. Regarde, on ne peut rien faire. Je sais bien que tu aimes la foule, je sais que tu es le Christ. » Je sais que tu es le Fils de Dieu, mais quelque part, allez Seigneur, il est tard. On verra ça demain ou un autre jour. Combien de fois on a essayé de raisonner Christ dans nos vies en lui disant que l'œuvre que tu me demandes d'accomplir, Seigneur, pour l'instant c'est impossible. Tu me demandes de faire quelque chose, mais tu vois que nous n'avons aucun moyen. Encore une fois, le Seigneur te dit, je te donnerai tous les moyens lorsque tu auras montré la foi. Je ne te donnerai jamais rien avant. Sinon, À quoi ça sert d'avoir la foi si tout nous est donné avant? Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est clair. Donc tout ce que nous vivons, ou tout ce que nous allons vivre, sera suscité par notre foi, notre confiance en Dieu. Mais si nous voulons être comme Philippe en disant, éventuellement tu m'aurais donné 10 ans de salaire, on aurait fait quelque chose de bien pour le repas de Noël du 18. Mais Dieu dit non. Ce que je veux, encore une fois, c'est ton amour pour moi. Ton amour va susciter ta foi. C'est pour cela que si on ne sait pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer sa parole. Et donc, André arrive, il disait, voilà, j'ai trouvé un jeune homme. 5 pains, 2 poissons. Et voilà la deuxième personne sur laquelle on va se focaliser. Philippe d'un côté, qui est plutôt un incrédule, disciple de Christ, apôtre, qui a une attitude plutôt de négociateur à ce moment-là. Et puis vous avez un gamin, on ne lui a rien demandé. Enfin, Jésus lui a demandé quelque chose. Et on va creuser ça. Dieu n'est jamais pris au dépourvu et il cherche un homme ou une femme qui soit au rendez-vous de Dieu dans un lieu inconnu ou inhabituel. Dieu nous surprendra toujours dans des moments inappropriés, inattendus. Nous, on va toujours croire trouver Dieu dans un lieu propice. On vient au culte, on sait que certains vont prier pour nous, donc Dieu sera au rendez-vous. Non. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu nous invite à ses propres rendez-vous qui ont été connus depuis la fondation des temps. Dieu connaît chacun des rendez-vous. Lui, il n'a pas besoin d'un calendrier dans l'agenda. Il a une mémoire telle qu'il sait qu'à tel moment, tel endroit, avec telle situation, il va faire un miracle dans ta vie. Et là, on va parler de ce garçon. Parce que ce jeune homme, il y a quand même quelque chose d'un peu spécial. Je répète que c'est un rendez-vous prophétique ce soir. Et ce jeune homme est un instrument prophétique entre les mains de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi prophétique ? Parce que tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous avons, que nous donnons à Dieu, Dieu se sert pour l'aujourd'hui de Dieu, afin qu'il y ait un retentissement dans le demain. Le prophétique, c'est aujourd'hui et dans le futur. Le passé n'intéresse pas Dieu, c'est fini. L'aujourd'hui de Dieu, on y est pour un impact dans le lendemain. Et regardez bien, ce jeune homme semble être seul. Il a 5 pains et 2 poissons, et moi j'ai essayé d'imaginer, j'ai dit « Seigneur, comment ce garçon se trouve là ? » Sur 15 000 personnes, André, frère de Pierre, s'est baladé au milieu de 15 000 personnes, à la recherche de quoi d'ailleurs ? À la recherche de quoi ? Notre responsabilité à nous, c'est quoi ? C'est d'aller chercher celui que Dieu appelle à la vie, qu'il a déjà préparé, qu'il a déjà prédestiné, qui n'est même pas au courant. Il y en a même ici qui ont donné leur vie à Christ et qui ne sont même pas au courant qu'ils doivent rentrer pleinement dans le service de Dieu. Mais pas les mains vides, parce que Dieu a déjà pourvu. Ce garçon arrive et on se demande d'où il vient. Est-ce qu'il y avait ses parents ? D'après vous, je pense qu'il n'y avait pas ses parents, parce que s'il y avait ses parents, je pense que c'est les parents qui auraient pris les 5 pains et 2 poissons et qui seraient venus jusqu'à Christ par l'intermédiaire d'André. Je pense qu'il était seul et que ses parents avaient dit à cet enfant, à ce jeune homme, « Va faire les courses. » Et en même temps, voilà l'argent, tu achèteras 5 pains d'orge et 2 poissons pour qu'on puisse manger ce soir ou demain. Mais ce garçon avait été pris dans cette journée et il est resté là à entendre parler Jésus. C'était peut-être la première fois qu'il l'entendait, ou peut-être la 4e ou la 5e. Peu importe, il était là avec quelque chose qui indirectement ne lui appartient pas. Il avait reçu des ordres de ses parents. Et voilà qu'il va au-delà de la consigne de ses parents. Vous imaginez ? Vous envoyez votre enfant faire les courses et vous attendez. Il est passé où ? Il ne revient pas. Il ne revient pas. Et, nous, et la maman, j'ai rien pour faire à manger. L'enfant n'est pas rentré. Il doit encore s'arrêter et jouer avec ses copains. Quand il va rentrer, il va prendre une rouste. Parce que j'attends qu'il revienne. Il faut que je prépare mes poissons. Ça peut être, ça doit râler. Ou s'inquiéter. Où est passé mon fils ? Mais cet enfant, lui, en aucune raison, il s'est inquiété. La parole de Dieu, elle est claire. Il suit André, il va devant. Et André dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 pains et 2 poissons ? Est-ce que vous pensez qu'André se serait permis de prendre directement les 5 pains et les 2 poissons, sans discuter avec ce jeune homme en disant, éventuellement, tu ne pourrais pas nous les donner ? Mais André, il n'est pas stupide. Il sait très bien que qu'est-ce que tu veux faire avec ça, 5 pains et 2 poissons. Mais quand on prie et qu'on demande au Seigneur, quand on lit la parole de Dieu et qu'on arrête d'être terrestre et qu'on essaye de comprendre les choses célestes, comment Dieu discute, comment Dieu veut discuter avec ses enfants, avec son peuple que nous sommes, eh bien on arrive à comprendre qu'il y a un autre langage. Il y a un autre langage. Voilà moi ce que j'ai ressenti dans mon cœur quand je priais le Seigneur pour savoir pourquoi ce jeune homme est venu à suivre André jusque devant le Seigneur en proposant ses 5 pains et 2 poissons. Voilà ce que Jésus aurait pu dire au cœur de ce garçon. Voilà ce que Jésus est en train de te dire à toi ce soir qui a 5 pains et 2 poissons parce que Dieu dit « voilà mon cadeau ce soir ». Voilà ce que je veux que tu m'offres ce soir. Je veux que tu m'offres ces 5 pains et 2 poissons. Voilà ce qu'aurait pu dire Jésus au cœur de ce garçon. Mon fils bien-aimé, j'ai besoin de toi. Voilà comment ça commence. Écoute bien ce que le Seigneur te dit ce soir. Mon fils ou ma fille bien-aimée, j'ai besoin de toi, de ce que tu es, de ce que tu es et de ce que tu as. Pour que je glorifie le Père et que tu sois un instrument de miracle pour l'éternité. Parce que la parole de Dieu est éternelle et cette histoire est racontée depuis 2000 ans. Cet enfant ne s'est pas posé de questions. Son cœur a dû être touché par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé à cet enfant. Il a suivi André parce que malgré que ses cinq pains et deux poissons ne lui appartiennent pas, c'est les commissions, il devait les rendre à ses parents. Ses parents en avaient besoin. Peut-être que c'était le peu d'argent qu'ils avaient. Peut-être qu'ils n'ont plus d'argent, les parents. Ce garçon aurait pu dire, mais non, je ne peux pas vous les donner. Quand je vais rentrer à la maison, je vais prendre une rouste. Mes parents vont me dire, mais qu'as-tu fait de l'argent? Qu'as-tu fait de l'alimentation? Comment allons-nous manger cette semaine? Tu nous as pris le peu qu'on avait. Tu es resté écouter cet homme et en plus tu es revenu les mains vides. Mais ce garçon n'a pas écouté la voix de la chair. Il n'a pas écouté son âme. La voix de Christ est beaucoup plus puissante dans l'amour pour toucher nos vies. L'amour de Dieu ébranle toutes choses dans nos vies, frères et sœurs. L'amour de Dieu va au-delà. Et j'ai lu ça hier. Et j'avais été surpris quand j'ai lu quelque chose que Philo m'a montré. Vous savez, on dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et on s'arrête là. Or, il y avait le verset d'après que je n'ai jamais fait attention. Or, il est dit que celui qui a peur, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de Dieu. C'est marqué dans 1 Jean 4. L'amour parfait bannit la crainte, mais celui qui a peur n'a pas l'amour parfait de Dieu. Cet enfant n'avait pas peur. J'en suis persuadé. La peur de la sanction, de la correction de ses parents s'il revenait sans rien, il l'avait oublié. Il avait simplement envie d'aimer ce Jésus qui parlait, qui a parlé à son cœur, qui a touché son cœur et qui lui a dit « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce que tu as, j'ai besoin de que tu viennes pour servir mon peuple. Et je ferai de toi un instrument pour l'éternité, un instrument prophétique. » Ce jeune homme est devenu un instrument prophétique. Ce jeune homme n'a pas de nom. Il est potentiellement quelqu'un d'entre nous. Chacun d'entre nous pouvons porter le nom de ce jeune homme. Et nous avons tous quelque chose à offrir à Dieu. Amen. Ne me faites pas mentir, parce que le jour où Dieu vous a appelé à la vie, il vous a donné l'abondance de sa vie. D'ailleurs, il est le pain de vie. Donc si tu n'as pas 5 pains, tu en as au moins un, celui qui vit en toi, qui s'appelle le Christ ressuscité. Il est ce pain de vie que tu dois offrir à ton voisin, à ta famille, à celui qui cherche Dieu, mais qui ne sait pas comment le rencontrer. Beaucoup de gens ont faim et soif de Dieu. Tu as en toi et tu es toi-même le pain de vie pour le nourrir. Et c'est, le poisson représente l'abondance, puisque nous ne sommes pas dans la disette ni dans la pauvreté. Nous sommes dans l'abondance du Christ ressuscité. Écoutez-moi bien, ne vous laissez pas distraire. Ce que Dieu dit, quand au début j'ai commencé, ce n'était pas une boutade. Dieu attend un cadeau de ta part. Il attend ces 5 pains et 2 poissons qu'il t'a donnés. Il veut que tu lui restitues parce qu'il veut le multiplier pour te rendre au centuple ce que tu lui as donné. Encore une fois, ce n'est pas une expression de la chair, c'est quelque chose de spirituel. Et nous devons apprendre à entendre parler Dieu, sa voix du côté spirituel. Nous sommes nés de nouveau, toutes choses anciennes sont passées et aujourd'hui toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'arrivons pas à nous projeter dans l'avenir parce que nous sommes toujours attachés au passé. Voilà que cet enfant est venu et il a répondu à Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce garçon venait de faire de sa vie une offrande prophétique. Il ne connaissait pas l'impact qu'il allait avoir, le retentissement qu'il allait avoir. Ce pauvre garçon, il ne fait qu'écouter la voix intérieure qui lui dit « Viens, apporte-moi ce que tu as ». Il était peut-être impressionné, il dit « Mais c'est toi André, le frère de Pierre ? Mais c'est vous là, les apôtres qui avaient guéri les malades et chassé les démons ? Ah mais c'est Jésus ! C'est Jésus qui a ressuscité Lazare, c'est lui. Parce que les choses, tout le monde entendait parler, tout le monde connaissait d'une façon ou d'une autre ce Jésus. Qu'on l'aimait ou qu'on l'aimait pas, tout le monde connaissait Jésus. Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Et nous, il est préférable que nous qu'on l'aime, qu'on ne soit pas trouvé mentor. Voilà, ce garçon se trouve dans une situation en disant, voilà Jésus, ils sont à toi. Et vous avez vu que même André a une attitude incrédule. André a une notoriété un peu plus grande que celle de Philippe. André, quelle est la réponse d'André à Dieu ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, franchement ? Mais ça, c'est vraiment du mépris. 5 pains et 2 poissons. Mais franchement, alors là, arrêtez de rigoler là. Je pense que les 12, ils s'étaient mis en accord en disant « Notre Seigneur, ce soir, il n'est pas dans son assiette. » Je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il a besoin de se reposer. Ou peut-être que le Seigneur ne connaît pas les circonstances. Mais qui pouvait se permettre de tenir tête à Christ ? Qui sommes-nous pour discuter sans arrêt avec le Seigneur et remettre en cause chaque fois qu'il nous demande d'accomplir sa volonté ? Qui sommes-nous ? Où est la crainte de Dieu dans nos vies ? Chaque fois, nous sommes toujours en train de discuter et de remettre en question les principes de vie que Christ nous enseigne à travers sa parole. Et chaque fois, on argumente. Chaque fois, on argumente. Et vous voyez, c'est Philippe, André, et je suis sûr que Pierre et tous les 12, ils étaient dans le même sac, ils discutaient pareil. Ils devaient faire une analyse. Est-ce que c'est vraiment le temps ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'on doit faire ? Est-ce que vraiment on doit s'engager de telle ou telle manière ? Mais peu importe si Dieu te dit fais-le, faisons-le. Je dois le faire, je dois m'impliquer. Ce garçon n'était pas là par hasard. Ce garçon n'était pas là par hasard. Ce soir, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas venu par hasard. Sinon, vous êtes les plus malheureux. Si nous sommes nus par le hasard, on est les plus malheureux. Parce que le hasard, Dieu ne le connaît pas. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu a tout planifié pour l'éternité. Vous le savez ? Tout est planifié depuis la fondation des temps par Dieu. Mais tout est planifié, c'est-à-dire que chaque chose que nous vivons à la seconde près, à la seconde près connue de Dieu. Tout ce que l'on va dire, faire, entendre, réagir, tout ce que le monde fait, un insecte qui bouge, une fleur qui tombe, tout est connu de Dieu. Tout. Et il nous dit, à chaque fois qu'on prend le pain et le vin, il dit, mais je te connais. Je te connais avant la fondation du monde. Et je te connais pour l'éternité si toi, tu crois en moi. Si tu partages ta vie avec moi. Si tu me donnes pleinement ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, de chacun d'entre vous, quelle que soit la situation que tu vis. Même si tu penses n'avoir aucune compétence, Dieu dit, je m'en moque, je ne cherche pas des gens avec des compétences, je cherche des gens qui veulent obéir. Donc déjà, si tu pensais qu'il fallait des compétences pour entrer dans le service de Dieu, alors tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Il n'y a qu'une chose, c'est si tu ne crois pas, là tu ne t'es pas trompé. Parce que si tu ne crois pas, tu ne sers à rien, ça c'est clair. Mais si tu crois que Dieu est Dieu, alors nous avons à obéir. Et regardez ce qui s'est passé après. Ils ont ramassé 5 corbeilles pleines de pain. D'accord ? Qui c'est qui les a ramassés ? Qui c'est qui a ramassé les 5 pains, les 5 corbeilles, les 12 corbeilles pleines de pain ? Ce sont les disciples. Ce sont eux. Ça veut dire qu'il y avait tellement à manger que les gens avaient vraiment faim parce qu'il y avait à manger autant qu'ils en voulaient. C'est-à-dire que ce n'était pas au rabais, il y avait autant à manger qu'ils en voulaient, et pourtant ils n'ont ramassé que 12 panières. Ça démontre aussi combien le monde a faim et soif de Christ, mais que le monde refuse de l'admettre. Mais par contre, regardez bien ce que dit Jésus quand il réprimande les Juifs. Il dit, vous venez pas après moi, à cause des miracles que vous avez vus. Vous venez après moi parce que je vous ai donné à manger. Parce que je vous ai donné à manger. Parce que je vous ai rassasié. Encore une fois, Dieu peut faire des miracles dans ce monde que personne ne se convertira si le Saint-Esprit n'intervient pas. Mais quand vous donnez à manger la parole de Dieu, et qu'elle touche les cœurs. Là, ça fait écho. Là, ça fait écho. Encore une fois, c'est une vision de Christ. Nous, on l'interprète terre à terre. Vous m'avez suivi non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que je vous ai donné à manger. Et nous, c'est là la priorité. Nous avons à suivre Christ parce que c'est lui qui nous nourrit chaque jour. Il nous nourrit. Il est le pain de vie. Il nous nourrit, et c'est parce qu'il nous nourrit que nous sommes en bonne santé spirituelle que nous pouvons voir les miracles s'accomplir. Les prodiges, les signes, la puissance du Saint-Esprit. Or, nous refusons simplement de prendre la parole de Dieu et de la faire la priorité dans nos vies. Je discutais hier avec certaines personnes. Je suis triste d'entendre que des personnes disent « quand je lis la parole de Dieu, je m'ennuie, ou je n'arrive pas à la lire, ou je ne la comprends pas. » Et je me pose des questions, je me dis « mais Seigneur, comment peut-on s'ennuyer de toi ? Comment peut-on ne pas te comprendre, puisque c'est toi qui te révèles à nous ? Comment peut-on négliger la parole de Dieu et en faire un livre qui reste sur une étagère ? Comment est-ce que la parole de Dieu n'est pas ma priorité chaque jour ? Je n'arrive pas à comprendre, je vous le dis ouvertement. Mais les gens préféraient être nourris. Notre prière, c'est Seigneur, pourvois mes besoins. Et c'est toujours des besoins personnels, charnels. Alors que Dieu dit, mais moi je veux te rassasier de tout ce qui est de moi, de ma vie. Autant dans l'esprit que dans tes besoins charnels. La parole de Dieu, c'est la vie. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais finir par un passage qui est écrit dans Esther. Il est dit, Esther chapitre 4, verset 14, « Car si tu te tais, en fait, c'est Mardochée qui parle à Esther et qui la met en garde. » Donc c'est une forme de... C'est Dieu qui parle, donc ce n'est pas moi, excusez-moi. « Car si tu te tais maintenant... » Donc en fait, si le jeune homme avec ses 5 mains et 2 poissons n'obéissait pas, c'est pareil, si tu es interpellé par Dieu ce soir et que tu n'entends pas la voix, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. En gros, Dieu dit, si tu ne m'offres rien de toi, ne t'inquiète pas, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à obéir. Mais le plus frustré, ce sera toi. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Fais abstraction de cette phrase, mais elle est dans le verset. Et voilà la finalité qui est super, que j'aimerais que l'on garde. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? En fait, est-ce que tu ne sais pas si c'est pour un temps comme celui-là que Dieu t'appelle, comme ce jeune homme, à venir avec ses 5 pains et 2 poissons pour en faire cadeau à Dieu? Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-là que nous vivons aujourd'hui dans cette ville de Lyon ou dans cette nation de France? N'est-ce pas pour un temps comme celui-là que j'ai besoin de toi, te dit le Seigneur? Si tu veux vivre, toi et toute ta famille, commence à obéir à ce que je te demande, car seule ma volonté est importante. Seule ma volonté est importante. Alors oui, on peut argumenter, se justifier, mais cela nous entraînera dans une bassesse, parce que nous n'avons pas à nous justifier devant Dieu. Encore une fois, sinon nous serions les plus grands menteurs. Encore une fois, nous disons, Seigneur, je t'ai donné ma vie, prends-la, fais-en ce que tu veux. Et au moment même où il demande quelque chose qui est faisable de ta part, de ma part, on dit non. Non, Seigneur. Alors nous sommes vraiment des menteurs. Et les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le père des menteurs, c'est Satan. Et lorsque c'est la chair qui parle, alors nous écoutons le diable. Or, si l'esprit de vie est en nous, et si notre Seigneur Jésus-Christ vit en nous, alors nous n'avons qu'une seule chose à faire, lui obéir et lui apporter ses 5 pains et 2 poissons. Et nous avons tous ces 5 pains et 2 poissons. Maintenant, es-tu disposé à donner tes pains et tes poissons? Et es-tu disponible pour entendre et voir Dieu agir dans ta vie et par ta vie? C'est une question que Dieu pose. Es-tu disponible à donner tes 5 pains et 2 poissons? Es-tu disponible à être un instrument prophétique ce soir, dans ce rendez-vous prophétique, pour avoir un impact dans ta famille dès aujourd'hui et demain, pour qu'enfin les prières soient exaucées, et enfin tu connaisses la grandeur et la puissance et l'amour et les bontés de Dieu? Est-ce qu'enfin nous sommes prêts à croire réellement que Dieu est le Dieu de l'impossible? Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui ne te coûte pas. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui ne te coûte pas. Je vous le rappelle que cet enfant avait 2 possibilités. Ou l'engueulade de ses parents, et il obéissait à Christ. Ou il refusait d'obéir à Christ, et il rentrait chez lui et ramenait les courses. Et il se prenait quand même une engueulade parce qu'il était tard. Frères et sœurs, quel est le cadeau que vous êtes capables de faire ce soir? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire des cadeaux? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se lever de leur chaise comme un signe prophétique en disant, je veux être ce cadeau pour toi? Ta vie appartient à Christ, mais ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu t'a donné, il veut que tu lui rendes. Pour le faire fructifier. Il y en a beaucoup qui connaissent leurs dons, leurs grâces, leurs appels. Il y en a beaucoup qui ont servi un temps, mais qui n'ont pas vu les fruits. Parce qu'ils sont, on va dire, en grippe avec les promesses de Dieu qu'ils ne voient pas arriver. Mais Dieu dit encore une fois, est-ce que ta vie t'appartient? Ou m'appartient-elle? Alors qui est prêt à donner ce cadeau qu'il est à Dieu? Il y a des dons, des talents au milieu de nous. Allez voir fructifier. Qui est prêt? Qui est prêt à sortir des bagages comme l'était Saül? Parce que la finalité de Saül, c'était quand même de devenir roi, même s'il a mal terminé. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Les 5 pains d'orge et les 2 poissons ont nourri 15 000 personnes. Et c'est un retentissement éternel. Et on se souviendra, quand on sera dans le paradis, quand on sera dans les cieux, dans le royaume de Dieu, on reconnaîtra ce jeune homme qui n'a pas de nom, anonyme, mais qui a obéi à Dieu et qui a voulu accomplir pleinement la volonté de Dieu, quoi que ça lui coûtait. Il a dit, pour toi Jésus, voilà ce que je suis prêt à te donner, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Qu'as-tu à offrir à Dieu? Alors Seigneur éternel, tu vois les personnes, les frères et sœurs qui se sont levés. Il y a en eux, Seigneur, quelque chose de bon. Je le répète, Seigneur, dans la vie de tous mes frères et sœurs, il n'y a que des choses qui sont bonnes. Ce n'est pas du parasite ni des poissons morts. Tout ce qu'il y a, ce sont la vie et l'abondance. Le don que tu as mis dans leur vie, c'est la vie et l'abondance. Voilà, mes frères et sœurs, ce que représente ce que vous êtes en train d'offrir à Dieu. La vie et l'abondance, afin que Dieu puisse, à travers vous, donner à manger à ceux qui en ont besoin. Et il te donnera ce que tu as besoin pour que ces gens sortent de la pauvreté spirituelle ou physique. Dieu dit, ton cœur, je le connais, et tous les obstacles qui se mettent en travers, je les renverserai. Je veux faire de toi un instrument prophétique dans ces temps prophétiques pour ce rendez-vous prophétique. Ce soir, je t'ai vu. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom et je veux que tu bénisses cette nation de France à travers ton obéissance, à travers ta foi. Et que les anges dans les cieux se réjouissent à cause de ton obéissance. Et que surtout, l'on puisse voir l'amour que tu as à me servir, malgré que cela te coûte. Alors, Seigneur, impacte les cœurs maintenant. Impacte les cœurs, Seigneur, de mes frères et sœurs. Puissamment, puissamment, Seigneur, qu'il y ait un retentissement dans les cieux. Un retentissement. Ébranle toutes choses, Seigneur, ici-bas, dans cette soirée. Ébranle, Seigneur. Et que rapidement, Seigneur, tu montres les fruits de cette obéissance. Rapidement, Seigneur, tu puisses parler au cœur et montrer comme quoi l'acte prophétique qui a été fait ce soir n'est pas vain, car rien n'est vain dans le Seigneur. L'obéissance produit toujours la vie. Alors je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, je me réjouis pour cette soirée et pour les conséquences qu'il y aura, l'impact qu'il va y avoir, les bénédictions qui sont liées à l'obéissance. Merci Seigneur, merci, parce qu'il y a plus que 5 pains et 2 poissons. Merci ô Éternel. Sois béni Jésus. Et pour finir, mercredi, j'ai dans le cœur, je sais que mercredi soir, Dieu vient lui aussi avec des cadeaux. Je le sais dans mon cœur. Dieu dit, je vais distribuer des cadeaux. Est-ce que vous en êtes convaincus? Vous savez, nous ne connaissons pas Dieu. À notre plus grande tristesse, nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons une vision très, très humaine de Dieu. Parce que si nous connaissions l'amour, la bonté, la grandeur, la splendeur et la majesté de Dieu, nous ferions des bons. Nous serions excités à voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que moi, je veux croire cette année que tous les païens seront amenés captifs à l'obéissance de Christ à travers les signes et les prodiges et les miracles liés à la parole de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. C'est dans les Romains. Je veux croire que les païens viendront à l'obéissance par la puissance du Saint-Esprit à travers les signes et les prodiges et les miracles liés à la parole de Dieu prêchée. C'est ça le pain et les deux poissons. C'est ça le pain et les deux poissons. C'est de voir les païens venir à l'obéissance de Christ par la foi. C'est ça, les cinq pains et les deux poissons. Et c'est pour ça que mercredi, Dieu va donner des cadeaux pour que nous puissions nous exprimer et voir les païens venir à l'obéissance de la foi en Jésus-Christ bien-aimé. C'est ça que je proclame de tout mon être ce soir, avec conviction, pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.